un peu d'une réflexion sur ce qu'on a vu pendant ces quelques jours. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit, parce que ce serait inutile. C'est plutôt essayer de réfléchir sur ce qu'on a vu. D'abord, puisque nous avons, nous, un souci de bien comprendre Saint Thomas, la première chose qui serait à faire, que je n'ai pas faite, ce serait de comparer ce que Saint Thomas nous dit au démalo, question disputée, avec la somme théologique, prima pars, question 48, sur le mal. C'est dans la question 48. C'est-à-dire, c'est à partir de la création. Il y a un petit problème intéressant. Je ne veux pas le résoudre, mais je souligne. Si on s'intéresse directement à saint Thomas, la question du mal est évidemment une question très intéressante et très importante. Alors, la question disputée du démalo peut être mise en parallèle avec, dans la somme théologique, la question 48 de la distinction des choses en particulier. Et la première distinction que saint Thomas fait, c'est la distinction du mal et du bien, ou du bien et du mal. Vous voyez tout de suite, on est dans une perspective théologique et la perspective de la création. Tout ce que Dieu fait valde bonum, c'est très bon. Il y a la parole de saint Augustin, que saint Thomas reprend tout le temps, que toute créature, du fait même qu'elle est créée, qu'elle existe, elle est bonne. Comment se fait-il que le mal apparaisse? Vous voyez, ça c'est le théologien. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Comment se pose la question du mal dans une perspective du théologien? Directement dans la lumière de la création. Et par le fait même aussi du gouvernement divin, mais de la création. Dieu ne peut créer que le bien. Ça ne peut pas être autrement. Alors, ce serait très simple, comme défenseur de Dieu, de dire le mal n'existe pas. C'est des positions qui ont existé, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que c'est impossible de dire ça, non. Certains ont dit ça, le mal n'existe pas. Puisque tout ce que Dieu fait, du fait même qu'il le fait, il est bon. Saint Thomas, dans son réalisme théologique, et c'est là où on voit son réalisme théologique, montre que la distinction principale, première, au point de vue théologique, c'est le point de vue du bien et du mal. La seconde distinction, ce sera de regarder les créatures spirituelles et corporelles. C'est très intéressant de voir que la distinction du bien et du mal est beaucoup plus profonde que la distinction des créatures spirituelles et corporelles. Parce que la distinction du bien et du mal enveloppe toutes les autres distinctions. Donc elle est beaucoup plus fondamentale, les premières. Oui. Ceci n'apparaît pas directement dans le démalo. Puisque le démalo va isoler une question de l'ensemble de la théologie. Alors, il y a une petite question qui se pose pour les spécialistes. Est-ce que le démalo est antérieur à la somme ou postérieur à la somme? Est-ce que saint Thomas ne notait pas quand il faisait une question, il n'était pas en la fête de Saint-Joseph. 1270, il ne n'était pas. Il a voulu laisser du travail pour les successeurs. Il y a un travail historique. De sorte qu'il y a une question qui se pose. Alors certains, comme le père Manteau, bon ami, qui a beaucoup travaillé la question du démalon, lui est sûr qu'elle est postérieure. Ça ne change pas grand-chose. Le démalon reste question disputée sur le Marne, mais dans une perspective théologique, c'est bien évident. Vous n'avez qu'à regarder tout de suite dans le démalon le 7 contrat, c'est saint Augustin. C'est saint Jean et c'est saint Augustin. Donc, on voit très bien, on est dans une tradition théologique. L'œuvre de saint Thomas est une œuvre de théologien. La session était une session philosophique. Nous ne devons pas, dans le monde d'aujourd'hui, répéter saint Thomas. Ça ne passe pas. La rampe, ça j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Si on ne dispose pas, si on ne reprend pas le problème au plan philosophique, les gens ne comprennent pas. C'est beaucoup trop abrupt, saint Thomas. Je vous dis, c'est les vitraux de Chartres, on les comprend tout de suite. Mais quand vous voyez du Chagall et les vitraux de Chartres, c'est pas tout à fait la même chose. Et vous devez comprendre ce qu'est Chagall et les vitraux de Chartres. Et vous ne devez pas les confondre. Je prends cet exemple, c'est toujours à côté, puisque c'est un exemple très très différent. Mais alors, je vois, quand vous regardez la structure du démalot, dans la somme, il y a une petite différence avec le démalot de la question disputée. Dans la question disputée du démalot, vous avez, je crois, la traduction, vous la donnez, je présume. Elle existe toujours à la bibliothèque, et j'espère qu'on a fait des tirés à part en surabondance suffisante pour que vous puissiez peut-être en avoir un privilège, puisque à Fribourg, il y a eu un mémoire de licence de notre cher père Marie-Benoît. Le mal obstacle à la découverte de l'existence de Dieu. Et en appendice, oui, qui travaille bien Fribourg, en appendice traduction du démalot, vous avez la traduction des articles du corps. Il manque, il faudrait compléter. Il faudrait compléter les objections. Structure du mal, cause formelle, qu'est-ce que c'est que le mal ? la division comparaison. C'est très très bien structuré. C'est un petit chef d'œuvre. Le mal. Parce que c'est pas capable de posséder le mal. Hein. Donc il y a un regard merveilleux de saint Thomas sur le mal dans des malons. Ça, c'est sûr. Quand je regarde dans la somme, le mal est-il une réalité naturelle? Est-il une certaine nature? Quidam natura. Le mal se rencontre-t-il dans les choses? C'est-à-dire, le mal existe-t-il dans les choses? Est-ce qu'il est trouvé dans les choses? Est-ce qu'il existe dans les choses? Une réponse. Le mal est-il dans le bien comme dans son sujet? Le mal détruit-il totalement le bien? De la division du mal en peine et mal de faute, où se trouve davantage la nature du mal, la raison du mal? Donc vous voyez, c'est assez proche. La seule différence, c'est que saint Thomas se pose dans le démalo. Savoir si le bien est cause du mal. Tandis que, on ne peut pas le dire que ça pose explicitement dans la somme. Et là, il y a nettement un progrès. Parce que se poser la cause du mal, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est là où tout le monde dégringole. Dans le démalo, c'est dit en pleine lumière. Alors, vous voyez que cette division est-il une certaine nature ou à liquide? C'est mieux, là aussi, de mettre à liquide. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus général. Une nature, c'est plus le monde physique. À liquide, c'est aussi au point de vue spirituel. À liquide, pour saint Thomas, est un transcendantal. Tandis que la nature n'est pas un transcendantal. Donc, il y a deux choses qui nous inclinent à montrer que le démalo est quelque chose d'ultime. Cette manière de regarder le mal est-il à liquide, et puis la causalité du mal. Voyez que aussi bien le démalo que la somme, on est dans une perspective théologique, c'est-à-dire dans la lumière de Dieu. Et c'est dans la lumière de Dieu qu'on regarde tout de suite la question du mal. Et on comprend très bien si Dieu est le bien absolu. De saint Thomas, c'est que Dieu ne peut être source que d'un seul mal, le mal de peine. Source immédiate. Le mal de peine. Dieu crée des réalités limitées qui impliquent une potentialité. Et par le point de vue de la potentialité, le mal peut apparaître. Mais Dieu n'est pas cause du mal. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça, il faut bien le soutenir. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, on est dans une perspective théologique qui regarde tout à partir de Dieu. Vous voyez que dans une perspective philosophique, ce serait très différent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant la session. On a essayé de partir de l'expérience du mal que nous avons. Ça ne te même parle pas du tout de ça. Quelle est l'expérience du mal que nous avons? Nous avons l'expérience du mal, le mal de fait qui nous afflige. On s'aperçoit qu'on a un œil en moins et qu'à côté de nous, les autres ont deux. On s'aperçoit qu'on n'a qu'un bras et qu'à côté de nous, tous en ont deux. milieu des gens bien plus brillants que nous, bien plus intelligents que nous. S'ils sont plus âgés, on dit c'est pas étonnant, ils ont beaucoup travaillé. Plus tard, j'arriverai. Mais s'ils sont plus jeunes que nous, très embêtant. Parce qu'ils ont travaillé moins, mais ils sont déjà arrivés à un point plus que nous. On s'aperçoit qu'il y a du plus et du moins dans les qualités. S'il y a du plus et du moins, de temps en temps, on est du côté du moins. Quand on est du côté du plus, ça va. Mais quand on est du côté du moins, c'est gênant. On fait l'expérience au niveau de nos qualités qui a des limites. Le noviciat est un lieu merveilleux pour faire l'expérience de ses limites. Parce que quand on entre, on croit qu'on est un petit Dieu. On a la vocation. Donc on est au-delà de la plupart. Puis, quand on se retrouve tous ayant la même vocation, c'est ennuyeux. On s'aperçoit de ses limites. On s'aperçoit de ce que c'est que le mal. Le mal est toujours lié à la limite. Ça, première expérience. Deuxièmement, on fait l'expérience que certaines de nos opérations, vitales, ne sont pas ce qu'elles devraient être. On fait l'expérience, par exemple, que de temps en temps, le pot de confiture, il nous tente, et on rêve dessus. Où sont les cornichons? Ça dépend des uns, les uns, les cornichons, et les autres, les confitures. Ça dépend des goûts et des couleurs, on ne peut pas discuter. Mais on s'aperçoit que de fait, on fait certaines opérations, certaines activités qui ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et que ces opérations, on dit qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont pécamineuses. On fait l'expérience de la désobéissance. Quand on doit obéir tout le temps, tandis qu'avant, on ne savait pas ce que c'était que l'obéissance. On s'aperçoit que des quantités d'actes, ce sont des actes de désobéissance. Plus la loi est stricte, plus on prend conscience de ses limites. Saint Paul nous dit ça à propos de la loi. La loi nous a été donnée pour que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs. Or, comme dans une vie religieuse, le règlement est une super loi, on s'aperçoit des quantités de choses qu'on ne s'apercevait pas avant. Il n'y avait pas de loi. La loi de l'Ancien Testament, on l'avait complètement oubliée. On faisait ce qu'on voulait, ce qui nous semblait bien. Et on nous félicitait tout ce qu'on faisait. Donc, c'était un homme parfait. Dès qu'on a eu de loi, dès qu'on doit obéir, on s'aperçoit que ce n'est pas comme du tout d'obéir. C'est pour ça que c'est très difficile. On se dit, c'est pas fait pour moi la vie religieuse, parce que j'arrive à voir que je suis tout le temps en désobéissance. Alors, dès que je m'aperçois que je suis dans cette obéissance, c'est pas bon. Et c'est vrai que la vie religieuse peut très bien vous conduire à un complexe d'infériorité. À cause de ça, la super loi d'un règlement. Il ne faut pas à cause de ça dire, il faut supprimer un règlement. Il faut supprimer le formalisme de la vie religieuse. Tout simplement parce qu'on n'a pas le courage de reconnaître, oui, qu'on est des pauvres types. Qu'on a de la peine à obéir. Et pourquoi a-t-on de la peine à obéir? Parce qu'on n'a pas beaucoup de volonté. Alors notre générosité remplaçait notre volonté. Ça arrive très souvent. La générosité, c'est un plumage très abondant pour certains. Tandis que la volonté, c'est très très différent. Et c'est vrai que le noviciat, on enlève toutes les plumes supplémentaires. Il y a un faisant, c'est beau, enlevez toutes les plumes. Et c'est vrai, c'est ça le propre du noviciat, vous enlevez les plumes du faisant. C'est pas drôle. ancienne dialectique du péché. Il y a aussi la découverte progressive de nos manques de volonté. Et on s'aperçoit qu'il y a un orgueil tenace. On s'aperçoit qu'on est lié aux trois concupiscences des yeux, de la vie et de la chair. Alors qu'on croyait, puisqu'on avait la vocation, qu'on était un être exceptionnel. On avait déjà une auréole qui poussait autour de nous. Tandis que ça perçoit de ça. Mais c'est, je vous dis, pensez de temps en temps aux plumes du faisan qu'on enlève. Bel animal le faisant. Tandis que quand vous avez enlevé toutes ces plumes, vous voyez pendre. Vous les voyez pendre longuement pour le faisant. C'est encore pire. Un poulet, on le redit tout de suite. Dès que le faisant le laisse exprès. Et c'est ça, le novice, on le laisse exprès faisant. Vous lui enlevez toutes les plumes, puis il s'aperçoit pour aller plus loin, toujours plus loin, dans cette espèce de découverte de l'orgueil. Parce que c'est ça qu'on doit découvrir. Que l'orgueil, il est congénital en nous. Il est congénital en nous, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de peine de le découvrir, parce que c'est tellement naturel d'être orgueilleux. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Donc, on fait la découverte, et ça, blanc, philosophique, c'est très important, on fait la découverte qu'il y a en nous deux aspects du mal. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Parce que je crois que c'est très important. Et je ne dis pas le mal de peine et le mal de faute. Ça, c'est théologique. Philosophiquement, je fais la découverte du mal privatif et du mal dynamique. Il y a un mal que je peux constater qui est une absence. Je n'ai qu'un bras. Je m'aperçois de mes limites. Je m'aperçois que mon voisin, il a des qualités que je n'ai pas. C'est pas bien. C'est à partir de là que peut naître la jalousie. Alors qu'il y a un autre mal. Justement actif. Donc, je m'aperçois de ça. Je me demande ensuite. J'ai l'expérience du mal. C'est très important d'avoir l'expérience du mal. Il ne faut pas la chercher, on l'a tout le temps. Votre examen philosophique, chaque soir, vous vous apercevez chaque soir de l'expérience du mal. Le juste paix. et le bien. Alors vous voyez, là je vois tout de suite cette chose très importante. Il y a un mal qui détruit l'intégrité. Et il y a un mal qui s'oppose au bien. Or le bien et la perfection ne sont pas la même chose. C'est ça qui est très intéressant à noter au plan philosophique. Ça ne me le dit pas du tout. Et au plan philosophique, c'est très intéressant de faire ça. De bien voir qu'il y a un mal qui est l'opposé de l'intégrité. L'opposition de la perfection. L'intégrité, c'est quand on a tout ce qui est dû à notre nature. Alors on est intègre. Tandis que le mal qui s'oppose au bien, c'est le mal qui m'empêche d'atteindre ma fin. C'est le mal qui s'oppose à l'amour. Donc il y a un mal qui s'oppose à la perfection. Il y a un mal qui s'oppose à l'amour. Il y a comme deux espèces de mal, ça. Deux niveaux. Je crois qu'on peut facilement comprendre ça, ces deux niveaux. Alors tout de suite, cette espèce de question qui vient au point de vue philosophique. La privation est une opposition plus radicale que la contrariété. La privation est une opposition très proche de la contradiction, tandis que la contrariété est plus lointaine. Alors c'est très curieux. Le mal privatif que j'expérimente, qui est contre la perfection, m'apparaît donc plus mauvais, plus mal que le bien contraire, en opposition vis-à-vis de l'amour. Et c'est vrai, si je reste à un point de vue purement descriptif, je dirais ça. Un plan descriptif, c'est ce qui apparaît. Alors, je me pose la question, comment ça se fait, ça? Le mal qui s'oppose à la perfection me semble plus mauvais que le mal qui s'oppose au bien. Or, le bien est plus que la perfection. Donc, l'opposition à l'égard du bien est plus terrible que l'opposition à l'égard de la perfection. C'est net. Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre cette espèce d'opposition plus radicale par rapport à la perfection? C'est là où je suis obligé d'analyser, puisque c'est une opération mauvaise. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Qu'est-ce que c'est que la vanité? Qu'est-ce que c'est que la concupiscence? Donc, je n'ai analysé que l'orgueil, parce que c'est dans l'orgueil qu'on doit regarder cela. L'orgueil étant de fait comme mal positif, la chose la plus terrible. Et je crois qu'on doit sentir cela. On le sent très vite chez les autres. C'est jamais drôle de vivre à côté d'un orgueilleux. Et dans la vie commune, ça existe. Parce que on est très miséricordieux. Jésus est très miséricordieux. Il accepte même des orgueilleux. On est tous par nature orgueilleux. Tous. C'est notre défaut dominant. Avant de vous dire humble, il faudra du temps. C'est bien évident. Ce n'est pas en prenant l'habit. On prend l'habit de l'humilité. C'est évident. L'habit, c'est l'habit de l'humilité. On quitte les brumes du pan, qui sont les habits du monde, pour revêtir les haillons du pauvre. Ce sont des haillons très beaux, mais c'est quand même l'habit de la pauvreté. Et cependant, on garde en nous une tendance à l'homme. raison à laquelle on prenait bien les jeux. Pour qu'on voit mieux, qu'on dépiste davantage l'orgueil. C'est très curieux, ça. Il y aurait toute une étude d'ordre phénoménologique à faire là-dessus. Et on verrait tout de suite que ça se dépiste beaucoup mieux. Quand on a tous le même habit, quand on a tous la même vie, vous voyez. On a un règlement de vie, on mène la même vie, on récite l'office ensemble, on mange ensemble. Alors l'orgueil apparaît beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite que si on avait chacun son rythme de vie. Levé à 9h du matin. On se coucherait à 1h ou à 2h. On se ferait à 9h du matin. On aurait son rythme à soi. On aurait sa manière de vivre à table. Et ainsi de suite, vous voyez. Ce serait beaucoup plus difficile de dépister l'orgueil. Lorsqu'on a la même vie. C'est très curieux, ça. Oh, ça se cache quand même très très bien. Hein. Parce que l'orgueil, c'est comme le serpent. Il a les couleurs du terroir dans lequel il se trouve. Et c'est pour ça que c'est très difficile à démasquer. C'est pas si facile que ça à démasquer. On peut faire tout un officiant sans que l'orgueil soit démasqué. Mais dès qu'on est prophète, la tête se lève. Tout de suite. Et au officiant, on rampe. Habilement. Oh, sans aucune ruse. Mais on est novice. C'est normal. On est novice. Alors dès qu'on est prophète, ça se lève. C'est curieux. Oh, l'orgueil, c'est une chose extraordinaire. Comme habileté. Il n'y a rien de plus habile que l'orgueil. Ça se cache. Ça se taire rapidement. L'orgueil implique une privation. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. L'exaltation. confrontation. On se met au-dessus des autres. On se met premier. On se met chef de file. Et tous les autres viennent derrière. Et les autres viennent derrière. On ne laisse jamais passer l'autre devant nous. On ne reconnaît jamais qu'on est second. Il y a donc dans l'orgueil ce désordre de faire que c'est nous, dans notre intelligence, qui devient notre propre bien, notre propre finalité. On se choisit comme nombril du monde et tout le reste tourne autour de nous. Voyez le désordre qui est appliqué dans ce choix. Parce que toujours le péché, c'est dans un choix, c'est dans une intention de vie, mais qui va se ramener à un choix. Et on choisit cela. Et ce choix implique un désordre. Donc, ce choix implique une privation. C'est ça qu'il faut saisir. Ce choix implique une privation à l'égard d'un amour. À la place d'aller le plus loin possible dans l'amour, on diminue l'amour. Alors ceci n'est pas explicite, c'est bien évident. L'orgueilleux choisit comme bien son intelligence, l'exaltation de son intelligence. Il choisit comme bien d'être premier, c'est bon d'être premier, puisque j'ai des qualités. Et j'ai de bonnes qualités que je connais bien et que je mets en pleine lumière, d'être celui qui a le plus de goût, d'être celui qui discerne le mieux, parce que une fois on a bien discerné, par le fait même je suis celui qui discerne le mieux, une fois on nous a dit que c'était juste ce qu'on disait, donc nécessairement on est premier. Ça repose toujours comme ça sur une réussite d'un moment. Et quand on n'a pas réussi et que personne ne nous l'a dit, tous les autres sont des amis ici, ils ne comprennent rien. Il n'y a que moi qui me connais. Et j'ai des qualités en réserve. Je n'ai pas encore développé. Mais le jour où je pourrai les développer, vous verrez. Ce sera extraordinaire. Alors, on se met comme ça, en attente, vous voyez. Il y a un orgueil d'attente. C'est pas encore tout à fait réalisé, mais ça va venir. Un jour, je serai dans telle ou telle circonstance, ce sera merveilleux. Tant que je suis novice, c'est normal, ça fait partie d'être novice. Tant que je suis profet, uniquement pour 3 ans, c'est normal, mais quand je serai profet perpétuel, quand je serai prêtre, alors vous verrez. Tout le monde sera la suite, c'était bien évident. Parce que ce sera la sainte prédication parfaitement réalisée, et qui n'a pas encore été entièrement réalisée jusque-là. Et cette espèce d'orgueil qui se cultive, c'est un bien, mais qui met obstacle à quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu qui devrait passer devant, c'est lui qu'on devrait regarder. Ou le prochain qui devrait passer devant. Donc, il y a une privation. Une privation du côté de l'esprit. Une privation qui va très loin, puisque c'est une privation par rapport à la finalité vraie, par rapport au bien véritable. C'est donc tourner le dos à la vraie finalité. C'est pour ça que le mal de faute va plus loin que le mal, tout simplement, de peine. Dira le théologien, et le philosophe dira que le mal de faute, qui est le mal dans l'esprit, dans l'activité de l'esprit, va plus loin que toutes les privations que nous pouvons constater, qui sont des effets. Ils sont des effets, ils sont seconds. Donc, je vois que la ratio mal, la raison du mal, c'est la privation. nous afflige, pour une espèce de privation qui nous afflige, on pourrait essayer de prendre une stratégie intelligente de s'occuper à autre chose et d'essayer par tous les moyens de faire quelque chose de positif qui diminuerait ce point de vue de ce mal qui nous afflige. Tandis que le mal de faute, on ne peut pas le diminuer parce qu'on le veut. On est cause de ce mal de faute et on est dedans. Tandis que tout mal uniquement privatif, on peut toujours le diminuer. C'est même une distinction extrêmement importante pour discerner si on est complice ou pas complice. Quelqu'un qui s'afflige et qui dit « je ne peux plus, c'est trop lourd, c'est impossible », est-ce que c'est un mal de peine ou un mal de faute? Si vous le voulez, c'est un mal de faute, vous resterez dedans et vous n'en sortirez pas. Si c'est un mal de peine, vous pouvez vous en tirer en faisant autre chose. Et ce mal est là pour exercer votre volonté. Pour ça que c'est si important, cette petite distinction, n'est-ce pas, du mal qui est un fait. Enfin, je ne dis pas le mal de fait, de peine, au point de vue philosophique. Je dis c'est un fait. Je constate. Je constate que quand je suis dans telle ou telle situation, immédiatement, je suis angoissé. L'angoisse, c'est ma mal volontaire. Je suis angoissé. Je commence à m'enliser. Alors, cet enlisement est-il volontaire ou est-ce que vous le subissez? Si vous le subissez, vous pouvez en sortir. Parce qu'il n'y a que la privation. Si vous le voulez, vous n'en sortirez pas. Si vous êtes complice, mais on ne veut pas regarder. On n'aime pas de regarder. On n'aime pas d'avoir la lucidité là. Alors on doit l'avoir. C'est la seule manière d'en sortir. Parce qu'on peut être fragile et sentir des quantités de choses que les autres ne sentent pas. Vous avez toujours l'exemple de la bascule sur la place publique de Saint-Jean-d'Arc. Et la bascule chez le pharmacien, à Neuilly, puisqu'il n'y a pas à Saint-Jean-d'Arc, la bascule, la grosse bascule, ça ne bouge qu'avec 100 kilos de viande, des gros bœufs. La bascule chez le pharmacien, une petite poussière. Alors, il y a des gens qui ont une sensibilité telle que dès qu'ils sont dans tel climat, immédiatement, la bascule. Les ours brûlent. Le bon bétail de Dieu. Tous ces qu'on lui serve de l'eau en plein midi et de l'eau le soir, et ça marche. Le bon bétail de Dieu. Soyons le bon bétail de Dieu. Mais ça marche. Tandis que ça arrive, ça peut pas être autrement. Alors, on doit être suffisamment lucide pour dire « Est-ce que je suis complice ? Est-ce que je le veux ?» Parce qu'on peut maintenir en nous une espèce de maladie psychique. Ça s'entretient. Un certain masochisme. Vous êtes en état